théologie à Rimont par le père Marie-Dominique Philippe le 1er juin 1989 ayant pour thème Marie.
Il y a un petit changement dans l'heure, ça n'a pas d'importance. On me demande de vous parler du mystère de Marie. Si je regarde l'écriture, puisque le théologien doit toujours revenir à l'écriture, je vois que c'est surtout Saint Luc et Saint Jean qui en ont parlé. D'autre part, le père de l'Église, et peut-être surtout depuis le XVIIe siècle, on a beaucoup regardé toutes les figures qui annonçaient Marie dans l'Ancien Testament. Que de fait l'Esprit Saint ne cessait de parler d'elle. C'est Saint Jean Eudes qui dit ça. Et Saint Jean Eudes reflète tout un climat. Il dit que l'Esprit Saint parle toujours de Marie. Alors, il prend les expressions. Marie est l'épouse. Donc, comme un époux, il ne cesse de parler d'elle. Mais jamais, très rarement, directement, de façon cachée, de manière symbolique. Et c'est vrai, il y a toute une étude extrêmement intéressante, je ne peux pas la faire ici, je l'avais faite à Fribourg, de voir à travers l'écriture tous les symbolismes sur Marie de l'Ancien Testament. Alors évidemment, ce n'est pas de la théologie scientifique, de faire ça. C'est pas de l'exégèse scientifique. Mais c'est peut-être un aspect de la théologie mystique de voir comment, dès le point de départ, tout de suite, il y a Adam et Ève, et dès qu'Ève pêche, qu'elle est chassée du paradis, immédiatement, il y a un sauveur qui est promis. On a vu le parallélisme entre les deux Ève. Ça, très vite. Ça, les pères de l'Église. Ce qui reste très important, dire que Marie est la nouvelle Ève, je crois qu'au plan théologie de l'économie divine, c'est capital comme affirmation. Et il s'est repris par le Saint-Père dans sa dernière encyclique sur Marie. On peut dire que c'est un enseignement courant de l'Église. Celui qui refuserait ça, je crois, se place dans une perspective qui n'est pas celle vraiment de l'Église. Vous comprenez que c'est capital, parce que dans la première économie, Ève tient cette place d'être la mère de tous les vivants. Et donc, dans la nouvelle économie, Marie tient cette place d'être la mère de tous les vivants, d'une façon tout autre. Mais elle prend cette place fondamentale. Et je crois que si Saint Justin dit ça déjà très au début de l'Église, c'est quand même très significatif. Saint Irénée veut dire, si Saint Irénée dit ça dès le point de départ, c'est très significatif. Mais tout de suite, dans une vision de théologie de l'économie divine, il met tout de suite Marie au cœur. Si nous regardons, je dis ça exprès pour que nous voyons bien, la théologie scientifique de saint Thomas, qui a été un grand tournant dans l'histoire de la théologie, ça on peut observant saint Thomas, on peut dire que chez les pères de l'Église, tout est un peu lié, mêlé. Est-ce que saint Augustin, c'est la théologie scientifique? Non. C'est la théologie rhétorique? Oui, mais beaucoup plus que ça. C'est la théologie mystique, constamment. Saint Bonaventure, qu'on oppose à saint Thomas, de toute façon injuste du reste. C'est pas juste de les opposer pour voir leur diversité. Saint Thomas est quand même le premier. Alors, ceux qui aiment saint Thomas dira, c'est le génie de saint Thomas. Ceux qui ne l'aiment pas diront, ben oui, il est dévié. Il y a deux interprétations, actuellement encore. Ça se répète, ça se dit. Saint Thomas est quand même le premier qui a voulu aller le plus loin possible dans la précision, au point du théologique. Et lui-même nomme sa théologie, scientifique. Il dit pas spéculative et pratique. Ça, c'est des distinctions du XVIIe siècle. Il dit théologie scientifique. Et saint Thomas ne renie pas la théologie mystique, qu'il dit qu'elle peut être symbolique. Il dit ça dans les noms divins. Alors, c'est sûr qu'après saint Thomas, tous les thomistes ont constamment repris la théologie scientifique de saint Thomas et ont très peu développé une théologie mystique. Un des rares, c'est Chardon. C'est très peu développé. Et au XVIIe siècle, la théologie mystique s'est développée presque en opposition avec la théologie scientifique, comme une théologie affective, qui est celle de saint Bonaventure. Eh bien, quand je regarde dans saint Thomas la place de Marie, où apparaît traité de la Vierge Marie, bien, elle apparaît lorsque on regarde question 27, après l'adoration du Christ. On regarde des béatifs. De Beate Virginis Mariae, sanctification. On regarde la sainteté de Marie, la sanctification de Marie. Donc, on dirait aujourd'hui, parce que toute cette question 27 demande d'être entièrement reprise, elle est périmée, puisque saint Thomas ne montre pas le mystère de l'Immaculée Conception. Très intéressant. Pour saint Thomas, Marie n'a jamais péché. Marie n'a jamais eu la faute du péché originel. Mais elle a connu toutes les conséquences du péché originel. Mais, selon une miséricorde particulière du Père, toutes les concupiscences n'ont jamais été jusqu'au bout. Elles ont été arrêtées par une miséricorde particulière de Dieu. Sauf que Marie n'a jamais péché. Ça, c'est très net chez saint Thomas. Et ça, c'est toute la grande tradition. Quoique toute la grande tradition, il faut les modernes, et des modernes très, très, très audacieux qui disent que Marie n'a plus péché. Une espèce d'importance. Et dans la mesure où on ne comprend plus très bien le péché, alors on va dire que oui, Marie a plus péché. Dans la mesure où on comprend ce que c'est que le péché et la grâce, non. Marie était enveloppée d'une miséricorde particulière. Et pour saint Thomas, c'est au moment de la conception du Verbe devenu chair en elle que toutes les conséquences du péché disparaissent. Et donc Marie est dans un état de pureté première. Mais comme si la grâce de l'Immaculée Conception était au moment de l'incarnation. intéressant parce que ça montre la difficulté pour un théologien comme saint Thomas d'aller au-delà de cette grande affirmation de saint Paul: tous sont nés dans la désobéissance. Ce texte est très fort, hein, faut bien le reconnaître. C'est le texte que vous tireront toujours dans les pattes tous les protestants, tous les réformés. Il faut le savoir. Il ne faut pas être pris au dépourvu. On peut y répondre, hein, c'est évident. Il faut être intelligent pour y répondre, mais on peut y répondre. Il ne faut pas avoir peur qu'on vous dise ça. Mais saint Thomas, très nettement, c'est le mystère de l'incarnation qui va donner à Marie cette pureté absolue, jusque dans sa chair. Parce qu'elle est la digne mère de Jésus et qu'elle porte en elle la source de toute grâce. Le père Mandonné, qui était un très bon historien du Moyen-Âge, et de saint Thomas, n'hésitez pas de dire que Thomas d'Aquin devait prêcher l'Immaculée Conception. Et que dans sa somme théologique, en tant que théologien scientifique, il disait: je peux pas. C'est très très joli ça. J'aime bien parce que quand on... ceux qui ont connu le Père Mandonné savent que c'était un historien qui n'était pas du tout mystique. Hein. C'est lui qui disait que les exégètes n'ont pas beaucoup d'herbe à brouter. Il pensait à la vache, vous savez, qui est attachée au poteau, alors qu'il tire sur la corde le plus possible, mais il ne peut pas. Alors les exégètes n'ont pas beaucoup d'herbe à brouter. Et c'est pour ça qu'ils hésitaient de faire une théologie à partir d'exégèse. C'était assez joli. Et le père Mandonné n'hésitait pas à dire ça. Que saint Thomas devait prêcher l'Immaculée Conception. Il n'avait pas de texte. Très peu de textes sur mon saint Thomas. Mais vu le climat du Moyen-Âge, il devait dire ça. Mais en tant que théologien scientifique, il ne pouvait pas dire plus. La Vierge Marie apparaît donc dans le mystère de sa sainteté. Et elle apparaît dans le mystère de sa maternité. Oui, c'est les deux grandes lignes que prend saint Thomas. Sa sainteté, sa maternité. Et la maternité, le rôle de Marie comme mère de l'humanité sainte du Christ, mère de Dieu, parce qu'elle a formé l'humanité sainte du Christ. Maternité miraculeuse, maternité dans la foi, et maternité réelle selon la chair et le sang. Saint Thomas ne parle absolument plus de Marie par rapport au mystère de la croix. Cherchez bien, vous ne le verrez pas. Donc, le seul traité sur la Vierge Marie, c'est dans la Tertia Pars. Question 27. Question 27, jusqu'à... On peut dire que là, c'est la question expressément... Je crois que c'est jusqu'à la question 33, la question de la formation du corps du Christ. C'est très peu de choses, hein. Et dans le traité de l'Église, et le traité des sacrements, il n'en parle plus. Et dans le traité des fins dernières, il n'en parle plus. Oui, très peu. Ça ne veut pas dire que cet homme n'est pas beaucoup les années vierges. Non. Mais il fait une théologie scientifique. Nous n'allons pas nous placer dans cette perspective-là. Nous allons au contraire, nous, reprendre ce que le Concile Vatican II nous demande. Vatican II ne condamne pas saint Thomas. Hein. Saint Thomas demeure le grand théologien de l'Église, le docteur commun. La théologie scientifique de saint Thomas demeure pour former l'intelligence théologique. Mais on ne peut pas prêcher et enseigner la somme théologique de saint Thomas. Vous n'êtes pas une catéchèse à partir de la théologie scientifique de saint Thomas. Ce serait désastreux. Tout le monde fuirait. C'est évident. La théologie Félicie Saint-Amand n'est pas du tout faite pour la prédication. Elle est faite pour former l'intelligence. C'est tout à fait autre chose. Pour la prédication, on prêche l'évangile. Et pour la catéchèse, c'est l'évangile. Il faut bien comprendre ça. C'est capital. Parce que la somme de Félicie Saint-Amand est beaucoup plus abstraite que l'évangile. Il est concret. Alors, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je voulais quand même situer bien pour qu'on comprenne ça. Nous plaçons dans une perspective de théologie de l'économie divine. C'est très proche d'une théologie mystique, du reste. Je regarde les deux grands moments où l'on parle de Marie. Saint-Luc. Je ne parle pas avant. On pourrait le faire. On pourrait faire comment, de fait, on retrouve constamment des préfigurations de Marie. Ève, premièrement. Ensuite, il faut regarder Sarah, Rebecca, Rachel. Ça, c'est évident, c'est des très grandes préfigurations. Sarah, c'est pas toujours commode, parce que je crois que Sarah n'avait pas un très bon caractère. Ça veut pas être commode. Pour Abraham, elle a des moments de lucidité, et des moments de générosité, mais ordinairement, c'est pas commode. On le voit bien. Rebecca, on comprend beaucoup mieux. Parce que Rebecca, et justement, au point de vue de la théologie de l'économie divine, Rebecca joue un rôle capital. Puisqu'elle fait passer le Benjamin avant l'aîné. Gare de triage. C'est quand même extraordinaire, ça. De voir que Rebecca fait passer le petit Jacob avant Esaü. Vous voyez, au point de vue de l'histoire du peuple d'Israël, c'est Jacob qui passe devant. C'est le désir, le secret interne de Rebecca. Pas du tout d'Isaac. Isaac, malgré lui, bénit Jacob. C'est merveilleux. Mais on vraiment l'envoie. Vous voyez, Sarah joue un rôle important. C'est dur. Elle exclut le fils de la servante. Elle le met à côté. Elle exclut le fils de la servante. Une sainte jalousie, ça. Mais vous voyez, j'allais dire que c'est normal, ça. C'est le fils de la femme libre. Saint Paul le montre bien. Tandis que Rebecca, elle fait quelque chose qui n'est plus selon les traditions. Elle renverse. Avec de très bons motifs. Elle renverse. Donc elle joue un rôle extrêmement important dans les secrets de Dieu. Parce que je crois que c'est les secrets de Dieu qu'elle nous manifeste. Et elle fait tourner. Alors on comprend très bien ce rôle de Marie qui fait comme le peuple nouveau, les Benjamins qui passent. Les pères de l'Église ont toujours vu ça de cette manière. Par rapport à l'Église, par rapport à la synagogue. Aujourd'hui, il faut faire attention. Il ne faut pas dire ça trop brutalement, comme je vous le dis là. Mais c'est quand même quelque chose qui est inscrit. Marie, mère de Jésus, mère de l'Église. Et c'est le petit Benjamin. Joue un rôle de la nouvelle Rebecca qui fait passer Jean devant. C'est pas Jean et Pierre, pourrait l'appliquer aussi peut-être à Jean et Pierre. C'est qu'elle fait passer Jean avant Pierre, et Pierre c'est l'aîné quand même. Mais elle fait passer Jean avant toute la grande tradition d'Israël. C'est l'Église qui passe devant. C'est la Benjamine. Et puis vous avez Rachel. Rachel, elle conquiert le cœur de son époux. Et Rachel met au monde, dans la souffrance, Rebecca et Rachel sont des préfigurations du mystère de Marie à la croix. Et elle veut appeler son fils, quand elle meurt, Benjamin. Elle veut l'appeler fils de ma douleur. Et Jacob ne veut pas. Et dit fils de ma droite, Benjamin. L'Église est enfantée dans les douleurs du Christ, dans les douleurs de Marie. Je veux dire, l'Église est enfantée dans les douleurs de Marie, à la croix. L'Église pourrait s'appeler fils des douleurs de Marie. Et non, c'est le Benjamin qui est appelé fils de la droite. Parce qu'il passe devant. Vous voyez, Israël ne s'appelle pas fils de la droite. Alors vous avez ensuite des quantités de préfigurations de Marie dans les femmes prophétesses, juges. Vous avez là des images de Marie très étonnantes. Surtout dans les annonciations. Toutes les annonciations de l'Ancien Testament préfigurent la grande annonciation. Vous avez Esther, Judith, admirable des sept frères, des sept fils, massacrés le même jour, dans le deuxième livre des Maccabées. Bon, on retrouve, si vous voulez, constamment, dans l'économie divine, des préfigurations de Marie. Mais on n'aurait pas pu le dire avant. Évidemment, parmi toutes celles-là, il y a la prophétie d'Isaïe sur la Vierge. On ne peut le dire qu'après coup. Et c'est pour ça que les exégètes scientifiques n'aiment pas. Parce qu'ils veulent redécouvrir le sens propre historiquement. Mais dans une perspective de théologie de l'économie divine, on peut. En considérant que l'écriture a un seul auteur principal, l'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'on peut faire à la manière des pères de l'Église ce jeu extraordinaire de comparaison de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. Vous comprenez bien, si l'Église maternelle, dans son éducation maternelle, nous donne comme livre révélé tout l'Ancien Testament. Et si vous regardez au point de vue du poids, hein, c'est quand même assez remarquable. Parce que vous avez tout ça, Ancien Testament, et ceci, Nouveau Testament. Éducation maternelle. Une éducation maternelle, qu'est-ce qu'on donne ? On donne vite l'essentiel. Je me souviens, ce bon curé de Belgique, il est mort maintenant. Au séminaire, il avait une peine énorme de suivre les cours. Le soir, quand il rentrait dans sa chambre, il était tout triste, il ne savait pas quoi faire. La Vierge Marie est venue lui apparaître. Tous les soirs, elle venait d'une répétition, le parrainage de Marie. Il a dit, les professeurs, c'est toujours très compliqué. Elle a rejeté tout ça, puis elle lui résumait en 10 minutes tout ce qu'il y avait d'essentiel. L'Église maternelle doit fois laisser tomber tout l'Ancien Testament. Et puis laisser que le Nouveau. Non, elle m'a dit à ça. Pourquoi? Parce que c'est utile pour nous. Évidemment, on allait pas enseigner tout l'Ancien Testament dans une catéchèse. Vous allez regarder tout de suite les choses essentielles, mais vous prendrez constamment des images de l'Ancien Testament. Et pour voir le traité de Marie, pour montrer que Marie, c'est la femme. Alors, c'est pas étonnant qu'on voit ces femmes extraordinaires de l'Ancien Testament. La première femme extraordinaire, c'est Ève. On sera tout étonné de la voir si belle. Parce que le péché n'a pas détruit sa beauté. Elle est restée séductrice. Donc elle est très très belle, Ève. C'est sûr, on sera très étonné. Quand tu lèves, et puis on verra Sarah. On verra des petites visites à toutes ces femmes extraordinaires qui préfigurent Marie. Ce cortège de toutes ces femmes préfigure Marie. Alors, encore une fois, nous ne pouvons le faire que dans une théologie de l'économie divine. Mais il faut le faire. L'histoire d'Esther, de Judith. Je regarde tout de suite Saint-Luc. Saint-Luc nous montre le mystère de la maternité divine de Marie avec l'Annonciation. Alors, là encore, hein, si nous avions le temps, nous regarderions toutes les Annonciations de l'Ancien Testament. Toutes les Annonciations préfigurent celle de Marie. Et ça, c'est très beau. Il faut le faire une fois dans sa vie. Même plusieurs fois. Parce que c'est très très beau. Je vous donne un exemple, par exemple. Cette annonciation que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup Samson, la mère de Samson, c'est dans le livre des juges. Celle qui sera la mère de Samson. Elle n'a pas de nom. Tu vois, quand on a un fils comme Samson, on n'a plus besoin d'avoir de nom. On est la mère de Samson. C'est suffisant. Le père de Samson a un nom, mais la mère de Samson pas de nom. Tu vas être très gêné de parler d'elle. C'est la mère de Samson, celle qui sera la mère de Samson. Samson a beaucoup d'imagination, il tient de sa mère. Sa mère devait avoir une imagination extraordinaire. Et donc, facilement décoller. Je crois. Décoller assez facilement. Il va y avoir de temps en temps des petites apparitions assez particulières. Tu aurais dit qu'un jour, elle a une apparition. On lui dit qu'elle aura un fils. Alors elle ne sait pas très bien si c'est vrai ou pas vrai. Et comme pour elle, l'autorité immédiate, c'est son mari, Manoé. Elle va immédiatement voir de lui. Manoé doit être un peu habitué, on le voit très très bien, à ses fantaisies. Et Manoé tout de suite dit au Seigneur, écoutez, hein, si c'est authentique, recommencez. On a donc une annonciation jumelée. C'est extraordinaire de voir ça. Je trouve ça très étonnant d'avoir de voir combien le Seigneur montre l'autorité du mari pour discerner les rêves authentiques et les rêves non authentiques. N'est-ce pas? On voit très très bien ça. C'est admirablement dit. Et le Seigneur recommence. Seconde apparition jumelée. Soit absolument saisi par cette apparition. Tout heureux du reste. Il prépare un repas, mais l'ange ne veut pas prendre le repas. Il s'en va. Flamme de feu. Au milieu de la flamme de feu. Vous voyez, Marie, pour comprendre l'attitude de Marie, comme c'est important de regarder ça. L'évangile de Saint-Luc précise hein, ce texte de l'Annonciation. Marie, fiancée à Joseph. Il y aurait beaucoup de choses à dire là. Beaucoup, beaucoup. La première fois où l'Écriture nous parle de Marie, c'est en référence à Joseph. Je trouve ça très étonnant. est l'homme historique, si vous voulez. Et Marie, en référence à Joseph, fiancée, à l'ombre de Joseph. Mais l'ange ne s'adresse pas à Joseph. Donc l'ange ne respecte pas la hiérarchie d'autorité. Avec Marie, tout est bouleversé. On comprend la revendication des femmes. N'est-ce pas ? Oui, très bien. Parce qu'avec Marie, tout est bouleversé. C'est Marie qui est celle à qui l'ange Gabriel s'adresse. Il s'adresse à elle quand elle est seule. Ça, c'est sûr. Ça n'aurait pas été poli pour Joseph. Donc, quand Marie adore, il s'adresse à Marie. Normalement, les grandes apparitions qui commandent par rapport au peuple d'Israël, c'est toujours à l'homme. Ici, c'est cette petite enfant de Dieu. Marie, 18 ans, sans doute. Aujourd'hui, on dit ça. Il y a 20 ans, on disait 14 ans. Aujourd'hui, on dit 18 ans, parce que de plus en plus, on sait que le mariage, c'était 18 ans. Je suis bien compris. C'est pas une question de foi. Et j'aime bien que ce soit 18 ans. C'est normal. S'adresse à Marie, fiancée à Joseph. Et Marie, immédiatement après l'apparition de l'ange, ne va pas trouver Joseph. Ça, c'est une interprétation de certains. Mais si je suis attentif au texte de l'Écriture, j'ai beaucoup plus l'impression que Marie n'a rien dit du tout. Elle a gardé le silence. Elle a dû être tellement secouée. La petite Vierge Marie, 18 ans. Qu'elle ne peut rien dire. Vous savez, quand on porte un secret très très grand, Joseph, c'est son fiancé, c'est quand même pas tout à fait la même chose. C'est pas du même ordre. Joseph, c'est le point de vue de l'amour humain. Tandis qu'au contraire, là, c'est un secret divin qui s'empare profondément de son cœur et qui met son cœur dans le silence et dans la solitude. Comme toujours quand on porte un grand secret. C'est un secret divin entre elle et Dieu. Elle n'a aucun droit dessus. C'est pas parce que Joseph est son fiancé, qu'elle peut le communiquer. Et de fait, Dieu ne va pas doubler l'annonciation. Il n'y en a qu'une. Pour Marie. Cependant, il y a un rêve qui est réservé à Joseph, la nuit. C'est pas du tout la même chose. C'est pour fortifier le cœur de Joseph. Et que Joseph ne soit pas troublé. Il est angoissé, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Alors c'est pour lui montrer ce qu'il doit faire. Ça ne regarde pas directement le mystère d'Annonciation. Marie a cru seule. Alors que la mère de Samson avait besoin de la prudence de son mari pour accepter. Marie, la pureté de la foi, parce que c'est là. Du mystère de Marie, rien n'est laissé au hasard. Et donc de voir comment Marie, la première révélation sur Marie nous est donnée, c'est Marie, fiancée à Joseph, qui reçoit directement le message de l'ange. Et on voit la prudence de Marie, comment cela peut-il se faire ? Je ne connais point d'homme. Si je lis ce texte d'une façon purement humaine, fiancé Joseph, elle connaît un homme alors, sans connaître au sens biblique, mais au point de vue de la prudence, il y a un ami, Elle t'a envoyé. Non. Elle demande à l'ange. Pour moi, c'est cela qui montre que Marie a gardé le secret. Autrement, le commodo, elle l'aurait gardé pour Joseph. Alors qu'elle le dit à l'ange. Comment cela peut-il se faire? Et l'ange lui dit de rester plongé dans le silence. C'est Dieu qui la conduira. C'est pas Joseph. L'ange n'a pas dit, mais quoi, Joseph peut t'éclairer, peut t'aider, il sera là avec toi. Tu ne seras pas seul à l'attendre. Cet enfant, il sera là. Il sera ton gardien, pas du tout. Tu replonges Marie dans une attitude d'abandon complet. Vous voyez, foi, espérance, amour. Les trois vertus dialogables qui sont là présentes dans ce mystère d'Annonciation. Pour nous, au point de vue théologie de l'économie divine, c'est capital. C'est le grand tournant de l'humanité. Le fiat de Marie a toujours été considéré comme un fiat qui est pour toute l'humanité. Pas seulement pour elle. Le mystère de l'incarnation, c'est pour toute l'humanité. Vous voyez, là, Marie joue un rôle unique. Et vous revenir tout le temps. Ce texte de l'Annonciation, je crois qu'on doit et on peut le faire passer facilement aux jeunes. C'est un des plus beaux textes de l'Écriture. Dans sa simplicité, et j'allais dire, dans la réalisation même concrète, voilà progressivement comment Marie dit le fils. Comment l'ange l'amène au fiat. Il est envoyé pour cela, pour que Marie dise son fiat. Et pour que Marie consente et coopère. Alors je souligne ici tout de suite, parce que ça fait partie de ces interprétations modernes, qui sont assez curieuses, auxquelles je crois qu'on doit faire un petit peu attention. Oui, c'est pas vieux, j'ai connu ça, toutes les grandes batailles qui ont eu lieu, tout ça. À ce moment-là, il y a eu des grands. Maintenant, c'est un peu moins. Il y a eu des tas d'articles. À ce moment-là, j'avais un peu de temps dessus au sein, comme ça m'intéressait beaucoup. J'ai suivi tout ce que l'école publique a pu dire à ce moment-là. Certains ont dit, Marie avait la foi d'Abraham, la foi d'une petite fille d'Ancien Testament. Le message de l'ange, comment peut-elle le comprendre? Fils du Très-Haut, oui, mais pas fils de Dieu. Bien qu'ils le disent, mais fils de Dieu, parce que c'est un prophète. Donc Marie n'a pas eu conscience dans sa foi que celui qui naîtrait d'elle serait fils de Dieu. Uniquement un prophète. Vous voyez, je crois que c'est très grave ça. Parce que ça enlève tout le mystère de la maternité divine. Une mère doit être consciente qu'elle porte son fils, un petit enfant. Elle est mère d'un enfant qu'elle accepte ou qu'elle n'accepte. Et au point de vue de la maternité humaine, c'est nécessaire qu'elle l'accepte. Si elle veut être vraiment mère. Si elle le refuse, elle n'est plus vraiment mère. Parce que la maternité est un acte humain. Fondamentalement, c'est un acte sacré et humain. Je dis bien sacré. Parce que c'est une coopération avec cri de notre première mère. Ève, j'ai enfanté un fils de par Yahvé. jamais oublié ça. J'ai enfanté un fils de Marie Avé. Alors Marie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle connaît cette parole d'Ève. J'ai enfanté un fils de par l'Esprit Saint. Et elle a conscience que ce fils, c'est pas seulement un prophète. Fils du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est Dieu. Alors, évidemment, Marie n'a pas eu les précisions théologiques d'un saint Thomas. Mais elle avait une foi plus pénétrante et plus contemplative que celle de saint Thomas. Et donc, elle pénétrait plus avant dans les paroles de l'ange. Pas oublier ça. On pénètre dans la parole de Dieu en fonction de la plénitude de notre foi. Celui qui a une foi très grande, en recevant la parole de Dieu, pénètre bien plus avant dans la signification de cette parole que celui qui est un théologien sans avoir beaucoup de foi. La foi contemplative nous permet de pénétrer dans la parole de Dieu bien plus profondément. La parole de Dieu a des sens infinis. C'est saint Augustin qui dit ça et saint Thomas l'a redit. Il y a des pénétrations toujours plus grandes. Mais actuellement, nous comprenons à tel niveau, dans 10 ans, si Dieu le permet, on comprendra bien plus loin. Il ne faut jamais oublier ça. Et la foi des enfants a une limpidité et une pureté qu'on ne retrouve plus quelquefois chez la foi des adultes. Et les enfants ont le droit à la parole de Dieu. Moindre, relativisant la parole de Dieu. Non. L'écriture nous est donnée. Et toute la théologie est faite pour qu'on lise l'écriture. Pas l'inverse. Toute la théologie est ordonnée à la lecture de l'écriture. Toute notre prière, nos méditations sont ordonnées à la lecture de l'écriture pour pénétrer pleinement la parole de Dieu. C'est très important pour l'annonciation, ça. Marie a une plénitude de foi. Alors c'est ici, je mets tout de suite, parce qu'il faut quand même en dire un mot, pour nous, dans l'économie divine, nous savons que Marie est immaculée. Et donc, on peut dire, dans l'économie divine, qu'avec Marie, il y a une reprise radicale de tout. Dieu reprend tout, radicalement. Pas seulement, vous voyez, faire que les fêlures, que les lézardes soient un peu raccommodées. Ce qu'il fait pour nous. Tandis que pour Marie, et avec Marie, tout est repris. Et être enfant de la Vierge Marie, c'est de savoir que grâce à elle, tout peut être repris en nous. C'est très très important ça, comme regard sur l'économie divine. Et je crois que nous devons le faire à partir de l'Annonciation. Pour comprendre la manière dont Marie a reçu, dans une plénitude de foi, ces paroles de l'ange. Et donc pour elle, ça ne fait pas de doute. Marie a lu quand même ce texte d'Isaïe. La Vierge enfantera. Est-ce que l'Esprit Saint n'a pas éclairé? La Vierge enfantera. Marie sait bien qu'il doit y avoir un sauveur. Marie sait bien qu'il doit y avoir un Messie. Et comme elle a une intelligence très pure, très limpide, et une foi si grande, ces textes de l'Ancien Testament lui parle avec une très grande force. Elle n'a rien dit. Elle a gardé tout ça pour Dieu. que Marie est bien plus intelligente qu'on le pense. Elle a une plume cette fois bien plus grande que toutes que les théologiens peuvent penser. Et donc elle les dépasse tous. Reine des prophètes. Reine des théologiens. Elle dépasse tous. Donc elle a une plénitude de foi qui dépasse tout. Et qui est une reprise radicale de tout. Pour que dans le mystère de Marie, la création de son âme et le don de la grâce soient simultanés. La création de l'âme de Marie est réalisée dans ce geste de miséricorde prévenante du Père à l'égard de son âme, qui l'enveloppe pleinement. C'est la question si grande dans le mystère de l'Immaculée Conception. Et le mystère de l'Immaculée Conception, il faut dire ça aux réformés, quand ils nous l'objectent, c'est le mystère qui nous fait comprendre l'efficacité plénière de la rédemption. C'est en vertu des mérites de la croix. Et le mystère de l'Immaculée Conception nous montre que le mystère de la croix est capable non seulement de remettre un peu de miséricorde, mais de tout reprendre. Le Père a tout remis au Fils. Et ça, on le comprend avec le mystère de l'Immaculée Conception. Il y a une reprise de l'imago Dei, de l'image de Dieu en Marie, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu de façon unique. Et tout est repris dans cette plénitude de grâce pour qu'elle soit la digne mère du Fils de Dieu. Pour qu'elle puisse, dans sa maternité divine, manifester d'une manière toute divine le mystère de la paternité. De Marie à Dieu, à ce mystère de l'Immaculée Conception. Elle se consacre totalement à Dieu. Ça, toute la tradition est là pour nous le dire. Là encore, c'est certains théologiens modernes qui mettent des bémols. Et voyez pourquoi la tradition le dit. Puisque Marie dit « Je ne connais point d'homme » alors qu'elle est fiancée à Joseph. Ça veut dire tout simplement que dans le fond de son cœur, elle s'est totalement consacrée à Dieu. Autrement, ce serait contradictoire. Et Marie voudrait se cacher, mentir à l'ange. Sûrement pas. Elle est très à l'aise avec l'ange. Elle a un peu peur, ça c'est sûr. Mais l'ange dit ne crains pas. Consécration virginale de Marie. Fiançailles à Joseph. La reprise du mariage dans une pureté nouvelle. Jésus le dit dans son évangile, qu'il veut reprendre le mariage dans une pureté nouvelle. Ce que l'Église veut faire aujourd'hui. Parce que le mystère de la fécondité, le mystère du mariage, est attaqué aujourd'hui d'une façon étonnante, comme le mystère de la virginité. Tout a été repris en Marie. Et dans le renouveau de l'Église, le Saint-Père insiste sur cette reprise du mariage et de la vie religieuse. Oui, c'est très beau de voir que dans l'économie divine, tout de suite, ces deux aspects sont liés et non pas opposés. Consécration de Marie à Dieu, totale. Elle fonde toute la vie religieuse. Et mariage. qu'il y a un véritable mariage entre Marie et Joseph, parce qu'il y a une amitié parfaite, la plus grande des amitiés, la plus grande amitié qui a existé entre deux êtres créés, deux êtres humains. C'est entre Marie et Joseph. La plus grande des amitiés. Ça, c'est très très grand. Et ce mariage doit être vécu dans une extraordinaire pauvreté. Ça, c'est sûr. Mais dans une amitié intense. La restriction n'est pas du côté de l'amitié. Elle est du côté pauvreté. Maternité contemplative dans la foi. Marie reçoit la parole de Dieu. Et par la parole de Dieu, elle reçoit le don que le Père lui fait de son Fils. Elle reçoit ce don dans sa foi. Elle reçoit dans la pauvreté. Elle ne doit s'appuyer que sur Dieu. De façon toute divine. Elle reçoit très grand amour, c'est son enfant, c'est son fils, Dieu qui se donne pour être son fils. Et il faut toujours prendre ces trois grandes dimensions de la maternité divine de Marie, contemplative, virginale, et donc miraculeuse, et selon la chair et le sang. Et Saint Luc nous montre toute la vie cachée. Relisez Saint Luc dans ce début de l'évangile et regardez tous les épisodes qui nous sont montrés. Tous nous font comprendre le mystère de la maternité divine de Marie. Marie va auprès d'Élisabeth. L'ange ne lui a pas donné d'ordre. Élisabeth, elle a besoin de toi. Pas du tout. Élisabeth attend un enfant. C'est un signe qu'il lui donnait pour laisser à Marie toute l'initiative et tout le mérite de l'initiative. Cette première charité fraternelle jaillit du cœur de Marie dans une liberté totale. Alors vous voyez, ça aussi, ça fait comprendre le mystère de la maternité divine de Marie. Nous, quand on a reçu un don de Dieu, nous risquons toujours de l'accaparer. C'est le très grand danger. C'est pour nous, c'est à nous. Puis on exclut tout le reste. Le mystère de la maternité divine de Marie montre comment elle reçoit le plus grand trésor qui soit, le Fils de Dieu. Et comment elle ne l'accapare en rien. En toute hâte, elle va auprès d'Élisabeth pour donner à Élisabeth tout ce qu'elle a reçu. Et là, nous voyons comment la charité fraternelle est le fruit direct de la contemplation et de la maternité divine. C'est très grand de voir que dès le point de départ, le précepte d'aimer Dieu et d'aimer le prochain sont liés dans le cœur. Vous avez la nativité, le retour de Marie auprès de Joseph, le songe de Joseph, tout ça fait comprendre le mystère de la maternité de Marie. Et l'ange dit à Joseph, retourne auprès d'elle, auprès de ta fiancée, de ton épouse. Ça doit être une joie prodigieuse pour Joseph. Retourner auprès de Marie, c'est son épouse. Il faut donc que cette maternité se réalise divinement avec le concours de Joseph. Non pas au niveau de la conception, mais au niveau de l'éducation. Dans la très fuit en Égypte, vie cachée, Nazareth, toute cette vie cachée, cette maternité divine de Marie, dans la plus grande intimité, qu'est-ce qui s'en est aperçu? Joseph cache tout. C'est pas commode pour Joseph, hein, le grand paravent de Dieu, celui qui cache tout, celui qui fait croire un mensonge. Notre vie chrétienne a commencé comme ça. Ça veut pas dire que le mensonge vit un camouflage étonnant. Et il fait ça admirablement, Joseph. Avec la plus grande simplicité. Mais c'est quand même quelque chose. Hein. C'est quand même très étonnant. Il faut quand même un petit peu de temps en temps réfléchir à ça. Comment Dieu a tout repris en Marie. Et a mobilisé Joseph. Selon les lois naturelles, la femme est relative à l'homme. Ici, c'est Joseph qui est relatif à Marie. Pas commode pour Joseph. Il est relatif à Marie parce qu'elle est la mère de Dieu. L'exaltation extraordinaire de la femme en Marie. Joseph relatif à Marie. Ça va très loin, ça. Et Joseph exerce son rôle d'autorité. Il n'a pas dit qu'il est l'autorité. C'est lui qui a l'autorité. Mais au point de vue de l'amour, c'est Marie qui a les initiatives. Alors on voit ce mélange, cette reprise de tout dans la Sainte Famille. Vous voyez, au point de vue de l'économie divine, la première reprise de tout, c'est la famille. Ça a été déjà comme ça dans l'Ancien Testament, on le retrouve avec la Sainte Famille. Ensuite, ayons ce nouveau regard sur Marie qui nous est donné dans Saint Jean. Ce n'est plus la mère de Dieu, c'est la femme. Alors là, on entre dans tout un aspect très important de l'économie divine sur Marie. Les écrits johanniques affirment par trois fois le mystère de la femme. Cana, la croix, l'apocalypse. Je crois qu'il faut toujours mettre en parallèle ces trois grandes révélations. Cana, au début de la vie apostolique, normalement, le rôle de Marie est terminé. Le rôle d'une mère est terminé quand le fils 30 ans, quitte sa mère pour commencer sa vie apostolique. Et si la mère veut le suivre, le fils lui dit non, moi je commence ma vie maintenant. Vous voyez ça, si toutes les mères voulaient suivre leurs enfants quand ils entrent dans la vie religieuse ou dans la vie monastique, qu'est-ce qu'il y aurait? Tous les bâtiments ici, c'est toutes les mères qui viennent vos bien suivre leurs enfants. Que Dieu veut renouer nouvelle annonciation. Dieu veut renouer les liens entre Jésus et Marie à Cana. Encore un contexte familial des noces. C'est quand même curieux, ça. Ça aurait dû être au désert, quand même. Marie aurait dû aller chercher Jésus au désert. Et dire, puisque tu es disciple de Jean-Baptiste, puisque tu es au désert, moi je veux me mettre disciple de Jean-Baptiste. Dans un climat de fête, dans un climat de noces. Et Jésus, là, regarde Marie d'une manière toute nouvelle. Femme. Là aussi, on a écrit beaucoup là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Marie est la femme. Elle n'est plus seulement la mère de Jésus. Parce que Jésus, dans sa vie apostolique, commence sa vie apostolique pour tous les hommes, pour le peuple d'Israël et pour tous les hommes. C'est l'universalité du sacerdoce du Christ. Il y a Et Marie apparaît tout de suite là, dans ce caractère universel. Fa. Elle est la première qui suit Jésus dans sa vie apostolique, selon l'évangile de Saint Jean. Regardez le petit texte. Après Cana, Marie ne retourne pas à Nazareth. Elle suit Jésus à Capharnaüm. On ne sait pas quand les autres sont venus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de Cana, Marie entre dans la vie apostolique de Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui le veut. Jésus a écouté sa demande. Femme, que me demandes-tu? Mon heure n'est pas encore venue. C'est très extraordinaire. Marie aurait pu être uniquement présente à la croix. Je crois que la demande de Marie à Cana, c'est la demande de la femme qui porte les mystères de son peuple. Et les mystères de son peuple sont représentés d'une façon symbolique, d'un symbolisme divin, par le fait qu'il manque de vin à des noces. Dans un pays où il y a du vin, vous voyez ça ? Les noces en Bourgogne, où il manque de vin. Existait pendant la guerre, mais pas en temps normal. Et Marie est là, qui porte la misère de son peuple. Ils n'ont plus de vin. C'est pas seulement le vin des noces, c'est le vin de la parole de Dieu. C'est le vin de la sagesse. La sagesse invite, c'est l'identité de la sagesse. Et elle donne du vin en surabondance, la parole de Dieu. Ils n'ont plus de vin. Et Jésus comprend très bien. Jésus ne vient pas seulement donner la parole, il vient donner le nouveau vin qui est son sang. Et dès le point de départ, la femme demande le sang du Christ sans le savoir. C'est la différence avec l'Annonciation. C'est qu'ici, elle ne sait pas ce qu'elle demande. Et sa demande dépasse de beaucoup ce qu'elle peut comprendre. À la croix, Marie est debout. C'est encore la femme. Je ne crois pas que Jésus ait dit souvent à Marie femme. Il l'a dit deux fois. Je ne sais pas, on verra au ciel. Je crois qu'il l'a dit deux fois. Cana et la croix. Et on comprend très bien. Parce que quand on dit trop souvent la même expression, elle perd sa force. Pour nous faire comprendre la force de cette appellation, il l'emploie deux fois. Au point de départ de sa vie apostolique, au terme, l'alpha et l'oméga. Pour montrer que tout, dans la vie apostolique, tout le rôle de Marie, c'est le rôle de la femme. Qui coopère. Le rôle de la femme dans l'ordre de l'amour, elle dispose, c'est elle qui a l'initiative à Cana, et elle achève, elle ne meurt pas à la croix, il faut qu'elle reçoive le cadavre de Jésus, il faut qu'elle soit présente au coup de lance, il faut qu'elle vive le mystère du sépulcre. Elle prend l'initiative et elle achève, tout s'achève dans le cœur de la femme. De la théologie de l'économie divine. C'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Parce que c'est une économie d'amour. Et puisque c'est une économie d'amour, on comprend que la faute a commencé par la femme. Et que la vie apostolique de Jésus a commencé par la femme. Et tout le mystère de l'incarnation a commencé par le fiat de Marie. Mais cette espèce de reprise étonnante dans l'économie divine, cette place de Marie dans la sagesse. on n'en parle pas et qu'on ne la regarde pas, on n'y comprend rien. Mais plus rien du tout. Dans la perspective de l'économie divine, Marie prend cette place extraordinaire. Ce dit Saint Louis-Marie de Montfort. Il dit ça. Marie a joué un rôle primordial dans l'économie divine. Et donc, si on ne la voit pas, on n'y comprend plus rien du tout. Dans l'ordre de la sagesse divine. Dieu l'a choisi au point de départ. À l'Annonciation, à la croix, à Cana. Vous voyez, à l'Annonciation, c'est la mère. À Cana, c'est la femme. À la croix, c'est la femme. Et alors, cette grande vision, il ne faut pas oublier, Apocalypse, chapitre 12. Ce spirit dans le ciel, Marie, la femme, on ne dit pas Marie, on dit la femme. Et en face d'elle, le dragon. Et là encore, vous voyez, il y a 50 ans, les exégètes n'osaient pas dire ce qui pourtant me semble très clair. Et moi, je suis naïf hein, quand on n'est pas exégète. Ce qui me semble très clair, j'ai toujours, en lisant ce chapitre 12 de l'Apocalypse, toujours compris que c'est Marie. C'est une netteté. Mais les exégètes disaient non. Le père Allot dit non. C'est vrai que depuis 20 ans, 30 ans, que les exégètes commencent à dire que la femme, c'est premièrement Marie. La femme de l'Apocalypse. En second lieu, l'Église. Et en troisième lieu, toutes les créatures. Mais c'est un langage symbolique, là. C'est évident. La femme est prise dans un langage symbolique. Être la mère de tous les hommes. C'est ça, la femme, dans son langage symbolique. C'est la mère de tous les hommes. Celle qui est responsable de tous. Dans cette grande vision d'Apocalypse, nous voyons que au cœur du combat, c'est la femme et le dragon. Et que toute la lutte dans l'Église, c'est entre Marie, ou plus exactement, entre le dragon et Marie, entre le serpent et Marie. Et que c'est toujours là où la lutte est à son paroxysme. La lutte première. Dire que Marie, qui donnait à Jean, qui donnait à l'Église comme mère, enveloppe tout le mystère de l'Église par sa maternité divine, mère de toutes les grâces. Alors, c'est le grand mystère de la médiation de Marie comme mère. Et vous comprenez bien que si Marie n'est pas médiatrice de la grâce, quand Jésus dit « Voilà ta mère », c'est un langage métaphorique. Bon, je ne peux pas dire que quand Jésus dit à Jean « Voilà ta mère », c'est un langage métaphorique. Impossible. Donc, Marie est la mère de la grâce. Puisque la mère, c'est celle qui donne la vie. Quelqu'un qui ne donne pas la vie n'est pas la mère. Quelqu'un qui avorte n'est plus la mère. Il ne faut pas l'oublier. C'est cette réflexion très très forte qui m'a été dite en Amérique. Et j'ai trouvé ça très fort. Pauvre mère qui fait avorter son enfant, c'était son quatrième, je crois. La réaction des gosses quand la mère est revenue, il l'avait su. Maman, tu n'es plus mère. Et ces gosses ont dit, tu n'es plus mère. On ne peut plus avoir confiance en toi, puisque tu ne l'as pas gardée. la mère de toute grâce. Elle porte toute l'Église. Et alors, je vous demande de réfléchir sur ce passage de l'Apocalypse, puisqu'on veut regarder le rôle de Marie dans l'économie divine. Il y a un passage qui, moi, m'émeut toujours beaucoup. Chapitre 14 dans l'Apocalypse. 14, facile à retenir. Et je vis, et voici une nuée blanche. Et sur la nuée, assis, quelqu'un de semblable. Ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille acérée. On n'a pas assez mis en parallèle la faucille marxiste et la faucille de l'Apocalypse. Intéressant. Le démon veut toujours être anti. Anti-faucille. Elle a fait la faucille. Là, c'est l'annonce de la fin. C'est quand même curieux. Sur sa tête, une couronne d'or et dans sa main, une faucille acérée. Et un autre ange sortit du sanctuaire, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Envoie ta faucille et moissonne, car elle est venue, l'heure de moissonner, car la moisson de la terre desséché. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. » Passage difficile à comprendre, mais quand même très étonnant. Puisque c'est l'oméga de la théologie de l'économie divine. Ça ne va pas regarder ce passage dans sa théologie de l'eschatologie, alors que c'est ça qui éclaire tout. Le moment où Jésus décide de jeter la faucille. Le moment où Dieu, dans sa sagesse, décide de jeter la faucille. C'est très étonnant, ça. Vous savez bien ce que dit Jésus aux apôtres en Saint Jean, quand il a rencontré la Samaritaine. Regardez, la moisson est blanche. Et ils sont en train de préparer l'organisation du repas. On ne voit pas que la moisson est blanche. Qu'est-ce qui dit aujourd'hui que la moisson est blanche? Envoie ta faucille et moissonne, car elle est venue l'heure de moissonner. Car la moisson de la terre s'est desséchée. La moisson de la terre s'est desséchée. On moissonne normalement avant. Les grains commencent à se dessécher. Alors là, c'est significatif. C'est la miséricorde de Dieu qui va le plus loin possible. Juste à ce moment-là, la moisson est desséchée. Alors, je pose la question au point de vue théologique. Qui peut commander à Jésus, jette ta faucille? Il dit un ange. Traduisez un envoyé. Qui peut dire à Jésus, jette ta faucille? Que ce n'est pas le rôle de la reine des anges? Est-ce que ce n'est pas le rôle de la femme? Alors c'est caché, symboliquement. C'est Marie qui dit, jette ta faucille. Vous voyez, le Fils de l'homme, c'est pas l'heure. Hein? C'est Marie qui reçoit du Père cette petite enfant de Dieu et qui dit, jette ta faucille. Je trouve ça très étonnant. Pour la théologie de l'eschatologie, faisons attention. Hein, parce que si on dit ça, tout de coup, vous direz, ah, le père Philippe a dit que c'était Marie qui décidait la terre. Attention, attention. Il faut faire grande attention. Parce qu'on est dans un climat, vous savez bien. Hein. Garde ça pour soi. Je vous le dis, parce que aux amis, on dit tout. Faire attention. Et relisez ce texte. 14, 14. Relisez, relisez, relisez. Puis essayez de comprendre. C'est pour nous quand même. En voie d'impossible, c'est extraordinaire ça. Jésus, assis sur la nuée, peut-être que Jésus, comme un fils d'homme, qu'est-ce qui fait la moisson? Mais c'est Jésus. C'est Jésus comme grand prêtre, comme médiateur. C'est Jésus qui a souffert sur la croix. C'est lui qui a toute autorité. Et voilà que celui qui a toute autorité, qui est le roi, entend cet ange en voix d'impossible. Et c'est pas un ange, c'est la reine des anges. Ça lui a été remis, ça. Autrement, elle serait pas reine. Alors, il y a la fête de Marie-Reine. S'il y a la fête de Marie-Reine, c'est pour qu'on comprenne ce texte. Autrement, qu'est-ce que ça veut dire? Si elle est une reine qui ne commande jamais. Ça signifie rien, il vaut mieux qu'elle soit uniquement épouse. C'est beaucoup mieux. Épouse à la croix. Mère à la croix. Et reine dans le ciel. Et reine dans le ciel, c'est celle qui a le droit de dire « Jette ta faucille ». Parce que c'est une œuvre de miséricorde. Jeter la faucille. Voyez tout ce rôle de Marie dans l'économie divine. Je pourrais reprendre maintenant chaque chapitre. J'ai mieux donné une grande fresque pour qu'au moins vous voyez ce rôle important dans l'économie divine.